Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes à une semaine de la Semaine Sainte, notre énième Semaine Sainte, un temps liturgique qui a une forte personnalité, le moment le plus important de l'année, moment où nous actualisons un mystère central de notre foi, la rédemption accomplie par le Christ. Et certainement, dans nos souvenirs, la Semaine Sainte constitue l'une de nos premières et plus importantes expériences personnelles. Les rites, la tradition, qui peuvent varier un petit peu selon les époques, les pays, les mentalités, mais c'est toujours les mêmes sur le fond. Nous revivons, nous actualisons des moments uniques dans la vie du Christ, la dernière scène, la passion, la résurrection, et nous soulignons cette résurrection parce que le point final, ce n'est pas le vendredi saint, ce n'est pas la mort sur la croix, mais c'est le matin de Pâques, c'est la résurrection. Et pour être encore plus précis, ce qui a même suivi le matin de Pâques, c'est surtout ça que nous préparons, c'est-à-dire la glorification du Christ, son ascension dans la gloire à la droite du Père, et puis l'envoi de l'Esprit Saint à la Pentecôte, et puis le second avènement à la fin des temps. Et toutes ces actions ont une valeur rédemptrice, que l'Église d'ailleurs actualise en permanence, pas seulement pendant la Semaine Sainte, mais en réalité tous les jours, chaque fois qu'une messe est célébrée, nous commémorons, nous revivons et actualisons toutes ces réalités. Et c'est pourquoi le carême si proche de sa fin et la Semaine Sainte sont avant tout un temps de conversion. Nous voulons réussir notre vie. Et la conversion est ce maître mot qui a bien été présent pendant les 5 semaines depuis les cendres. Sans cesse, nous pensons à cette conversion dont nous avons tous besoin. Il serait sans doute bon et utile pour chacun de nous de nous demander ce qu'il en est exactement, ce qu'il en a été pendant ces 5 semaines. Où en sommes-nous de notre effort de conversion, c'est-à-dire de notre plus grande fidélité à notre foi, à ce que nous connaissons si bien? Dans ce contexte, donc, nous abordons cette nouvelle récollection du mois d'avril avec les 2 sujets, il y en a toujours 2 qui sont prévus. Le premier, nous allons parler de la croix, c'est d'actualité, le sens de la souffrance et un peu de la maladie en fonction du temps, de l'aménagement de notre temps de méditation. Autrement dit, la présence de la croix dans notre vie, toujours dans la vie du chrétien, cette présence quotidienne, cette possibilité qui nous est offerte, n'est-ce pas, de nous associer à la croix du Christ et de bénéficier de ces grâces qui sont rattachées, qui procèdent de la croix. Mystère qui en a dérouté plus d'un, nous aussi, peut-être plusieurs fois dans notre vie, mais il est important de revenir sur cela. Tout à l'heure, dans 3 quarts d'heure, la seconde méditation, nous allons parler de la volonté de Dieu, sujet évident aussi pendant la Semaine Sainte et toute notre vie durant, cet abandon dans le plan de Dieu, dans le dessein de Dieu, sur le monde, sur chacun, ce plan qui se dévoile progressivement et que chacun doit découvrir et faire sien. Première méditation, donc celle-ci, sur la croix, sur le sens de la souffrance, sur le sens de la maladie. Et notre point de départ, ça peut être la définition même du mot chrétien, c'est-à-dire notre condition même de disciple du Christ. Qu'est-ce en effet qu'un chrétien ? C'est quelqu'un qui suit le Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui le prend pour maître. Et à plusieurs reprises, le Christ lui-même a évoqué quelles sont les conditions à remplir pour avoir droit à ce titre de disciple, qui n'est pas un titre purement honorifique, qui n'aurait pas de conséquences pratiques pour la vie ordinaire de l'intéressé. C'est extrêmement pratique. Et nous pensons évidemment à un passage qui est présent dans les trois évangiles synoptiques, qui est extrêmement clair, précis. Le Christ nous dicte quelles sont ses conditions pour être son disciple. Quelqu'un veut-il marcher à ma suite, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et qu'il me suive. Et l'enjeu, c'est de sauver sa vie. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Et le Christ continue d'expliquer, nous ça nous suffit, mais gagner le monde entier, si on perd son âme, ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est d'être véritablement, être un disciple du Christ, c'est de suivre vraiment, marcher à la suite vraiment. Si quelqu'un, il y a un si qui est conditionnel, qui veut dire, comme nous le savons, à supposer que quelqu'un veuille marcher à ma suite, c'est donc la liberté est mise en exergue. Si quelqu'un veut, un choix libre. Personne ne t'oblige, mon frère, moi non plus, à être chrétien. Et l'éducation des enfants, il faut leur apprendre. Personne ne t'oblige, ça doit venir de toi. Comprends cela. Même si nous avons été baptisés peu après notre naissance, et voilà, mais nous avons par la suite eu la possibilité de renouveler notre engagement, notre liberté, le choix devenu notre personnel. Il est donc sûr que nous le suivons depuis longtemps déjà en tant que disciples. Et c'est pourquoi la question qui se pose est celle de savoir comment nous suivons le Seigneur. Que nous le suivons, c'est clair, nous sommes là, nous faisons une récollection. Comment suivons-nous le Seigneur ? Et je voudrais vraiment mettre mes pas dans tes pas, Seigneur. Et je peux constater, à l'aide, entre autres, de cette méditation, que je garde des distances, je ne veux pas me compliquer la vie, que je veux garder un petit peu mon autonomie, et qui est un mauvais calcul, de toute évidence. Bien, voyons très rapidement, avant de passer à autre chose, ces trois conditions que le Christ nous dit, qui sont trois conditions absolues, positives. Si quelqu'un a l'intelligence de se mettre à ma suite, voilà ce qu'il doit faire. C'est très positif. Tout comme on va parler de la croix, bien sûr, tout de suite, positif, le signe plus. Ce sont les voies vers le vrai bonheur, vers la vraie paix, l'épanouissement personnel, que de se mettre à la suite, librement, volontairement, généreusement, à la suite du Seigneur. Première condition, d'abord, qui renonce à lui-même, c'est Jésus, c'est un enseignement divin, qui se renie lui-même, ça dépend des traductions, renoncer non seulement à telle ou telle chose extérieure, et les deux traductions sont importantes parce qu'elles nous éclairent. C'est pas uniquement renoncer à telle ou telle chose extérieure, à un bien matériel, à une situation, mais c'est me renier moi-même, c'est renoncer au moi, à tout ce qui compose mon moi, puisque nous sommes des êtres complexes. Il y a beaucoup d'éléments qui composent, oh là là, pas la peine de les détailler, on est composé de trop de choses. Et harmoniser tout ça, oh. Et il faut être prêt à dire non, à renoncer peut-être au plus profond et plus fort et plus ardent désir de notre nature humaine qui reste blessée. Et je dois renoncer à la facilité. Je dois renoncer au confort, à ma dignité même, à ma gloire sur terre. Tu me demandes tout ça, Seigneur. Et rien que ça mériterait toute une méditation. Qu'est-ce que ça veut dire que de renoncer à soi-même, que de se renier soi-même? Ça nous conduit loin. Et la Sainte Écriture donne des précisions. Il faut faire mourir le vieil homme et faire mourir ses convoitises. Mais pour le meilleur des buts qui soit, pour que l'homme nouveau puisse grandir et s'épanouir en nous. Si je ne fais pas mourir, renoncer à tout ce qui est mauvais en moi, je ne pourrai jamais atteindre cette dignité de disciple du Christ, quelqu'un qui suit fidèlement son maître. Ensuite, qu'il prenne sa croix. Le Seigneur, il y va cash. Et c'est très beau. Saint Luc ajoute sa croix chaque jour. Se charger de sa croix, la croix étant un instrument de souffrance, d'opprobre, de mort. Comme chaque condamné à mort devait le faire, charger sa croix selon la coutume de l'époque, nous dit Saint Jean. Et puis, non pas une fois, mais à tout moment, chaque jour, en toutes circonstances, je dois être prêt à prendre la croix, à porter la croix, ma croix, ta croix, Seigneur, cette croix qui est le symbole de celui qui fait son devoir au prix de la mort la plus douloureuse. Mais c'est une croix sur laquelle se trouve le Christ, comme la foi de l'Église nous l'a appris. Une croix qui est l'instrument du salut, la croix qui est la source de toute grâce, de toute vie. Spes unica, chanterons-nous le vendredi saint, la semaine prochaine, enfin l'autre. Oui, notre unique espérance, ma seule espérance est fondée sur la croix. C'est à comprendre ça aussi. Être disciple du Christ, c'est prendre sérieusement la croix. L'embrasser. Finalement, et qu'il me suive. Car moi, je portais la croix jusqu'au bout, nous dit le Seigneur. Et suivre le Seigneur dans sa voie d'obéissance et d'abaissement jusqu'à la mort. N'oublions jamais que suivre le Christ, c'est le considérer comme notre maître, c'est suivre son exemple, c'est croire tous ses enseignements sans faire de tri. Fâcheuse manie que nous pouvons avoir de faire un tri. Nous devons soutenir la cause du Christ, nous devons obéir aux préceptes du Christ et faire ce qui nous amènera jusqu'à la gloire du ciel. C'est ce que nous voulons, mais en suivant le chemin de la croix. Dans une retraite, beaucoup de choses se passent. La chose la plus importante, le chemin de croix. Là, on adhère au Christ de très près, dans le moment suprême de son don, de l'amour, du débordement de son amour. Et c'est une révélation que de comprendre cela. Rester près de lui, rester collé au Seigneur, sachant qu'aucun vrai bonheur n'est possible sans le Christ. Et le Christ est sur la croix. C'est la grande leçon que nos ancêtres de la foi nous ont apprise. Tous les saints disent cela, tous les écrivains sacrés disent cela. Il faut embrasser la croix, il faut aimer la croix, il faut comprendre la croix sans la comprendre, parce qu'elle sera toujours mystérieuse, parce qu'elle fait toujours mal. Mais elle est source de vie. Bien, tout cela étant rapidement rappelé, on aborde une seconde partie de cette méditation qui se veut de plus en plus pratique, même si ce que l'on dit, je pense, est suffisamment pratique. Nous nous connaissons. Et pour la partie pratique, approfondissons un petit peu le sens de la souffrance. C'est pourquoi on a évoqué, on en parlera un petit peu si on peut, de la maladie. N'oublions, toute souffrance, toute maladie, mais on élargit. Tout revers, tout échec, toute contrariété, toute défaite, que nous soyons directement affectés ou que des personnes que nous aimons en soient affectées, Notre expérience nous a appris que tôt ou tard, tout le monde a affaire à la souffrance et à la maladie. Tout le monde. Et à la mort. Personne ne peut y échapper, parce que notre monde et ses habitants sont loin d'être encore parfaits. Et là, le sens de la souffrance, lorsqu'on a la chance d'être catholique, on peut comprendre très profondément que la souffrance a un sens de purification très souvent. Le Concile Vatican II affirme dans plusieurs documents que nous sommes en état de cheminement, nous sommes en route, nous le disons, nous le chantons, nous le proclamons souvent. Et il faut dire que sur le plan médical, les progrès accomplis sont absolument remarquables. Tant mieux. Cela aussi fait partie de la volonté divine. Soumettez la terre, dominez-la. Les progrès des sciences sont là-dedans, bien évidemment. Cependant, il y aura toujours des contrariétés de tous ordres qui vont nous accabler. On aura toujours, quels que soient les progrès, dans 10 000 ans, si le monde existe toujours, il y aura toujours des contrariétés physiques, il y aura toujours l'âge, il y aura toujours le vieillissement, il y aura certains dysfonctionnements. Et comment? Et plus encore, la souffrance morale qui peut nous arriver sur tous les fronts de notre vie humaine. La souffrance morale dans la famille, dans le travail professionnel, dans les liens de parenté, dans la vie de la cité, des problèmes relationnels qui nous font souffrir et qui sont certainement les plus durs. Eh bien, celui qui a la foi est nettement mieux armé, avantagé pour faire face à tous ces problèmes. Ce sont les mêmes problèmes pour tous, mais susceptibles d'être abordés sous des angles très variés. Nous avons l'angle de la foi, et fiers d'avoir l'angle de la foi. Je vous lis un petit passage, une citation du Concile Vatican II, dans le document Gaudium et Spes, synthétise, mélange de citations et de lectures sans faire trop le tri, mais les idées sont fidèles. Lorsque manque le support divin et l'espérance de la vie éternelle, eh bien, la dignité de l'homme subit une très grave blessure. Et on le voit souvent aujourd'hui. Et l'énigme de la vie et de la mort, de la faute et de la souffrance reste sans solution. Ce qui fait que les hommes s'abîment dans le désespoir. Le Concile Vatican II, dans ce document, entre autres, met bien en lumière deux éléments essentiels pour tout chrétien. D'abord et surtout, le support divin. Dieu ne nous abandonne jamais, quelle que soit notre impression. Sans Dieu, les hommes, c'est de là que j'ai tiré l'expression il y a 2 minutes, les hommes s'abîment dans le désespoir sans le support divin. Inéluctablement, parce que les moyens humains sans Dieu sont tellement limités de toute évidence, et y compris les plus forts ou ceux qui semblent avoir le mieux réussi dans leur vie, sans le support divin, ils s'abîment dans le désespoir. Parce que quelle que soit notre situation, nous sommes tous devant une énigme, devant un mystère. Premier élément donc, sans le support divin, pas d'issue. Deuxième élément capital, l'espérance de la vie éternelle. Retenez les deux éléments. Je dois toujours m'appuyer sur Dieu. Deuxième élément, je dois toujours garder cet espoir de la vie éternelle. Sinon, je ne suis pas un disciple du Christ. Je manque d'éléments essentiels. Je perds le sens de ma vie sur terre. Et entre autres, je perds le sens chrétien de la souffrance qui est intrinsèquement unie au sens de la vie et au sens que je donne à ma vie. Si tout ce qui est contrariant est pour moi une source de désespoir et eh bien, je suis vraiment perdu tout de suite, depuis longtemps. Je sais, Seigneur, que l'étape terrestre est une étape transitoire, provisoire, relative, non définitive, que l'étape terrestre est une étape de préparation. Je ne peux pas l'oublier un seul instant. Par conséquent, si j'oublie ces deux éléments qu'on vient de rappeler, eh bien, nous sommes très mal armés et fragilisés à tout instant. Vous connaissez, j'ai raconté il y a 2 ou 3 ans, ici même, mais peut-être que personne n'était présent. Mais elle me semble sympathique, je suis bien sûr, j'ai pas cherché davantage. Alors, c'est un incroyant qui tombe dans une falaise, enfin d'une falaise. Et tandis qu'il dégringole, il saisit la branche d'un arbrisseau et reste suspendu entre le ciel et les rochers, qui sont à 300 mètres plus bas. Sachant qu'il ne serait pas capable de tenir longtemps, une idée lui survient. « Dieu !» crie-t-il de toutes ses forces. Silence. Personne ne répond. « Dieu !» crie-t-il de nouveau. « Si tu existes, sauve-moi, et je promets que je vais croire en toi et enseigner aux autres à croire. » Silence encore. Puis, il faillit lâcher la branche, lorsque, à sa stupéfaction, il entend une puissante voix qui résonne d'une paroi à l'autre du canyon. « Oui, c'est ce qu'ils disent tous quand ils sont en difficulté. »« Non, Dieu, non, s'écrie-t-il, maintenant un peu plus confiant, je ne suis pas comme les autres. Et quoi ? J'ai déjà commencé à croire, vous ne le voyez pas, puisque j'ai moi-même entendu votre voix. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est de me sortir de là. Et je proclamerai votre nom jusqu'aux extrémités de la terre. Très bien, dit la voix. Je vais te tirer de là. Lâche cette branche. Lâchez la branche, crie l'homme en détresse. Me prenez-vous pour un vous ? Fin de l'histoire. Et pourtant, moi, depuis que je l'ai entendu ou lu la première fois, je l'ai retenu, je pense, à jamais. Parce que je peux faire des moments de prière très bons avec ce lâcher la branche, avec cette application pratique du sens de ma vie, de ma foi, que Dieu est mon support, mon assise, ma prise, c'est le cas de le dire. Et tourner autour de cette expression, lâcher la branche. Prenez le cas de la maladie, lâchez la branche. Ma maladie, celle des êtres chers. Logiquement, nous rejetons l'idée même de maladie parce que nous sommes faits pour la santé. Mais elle arrive, sous une forme, sous une autre. Elle touche tout le monde. Et tout en la combattant par tous les moyens disponibles, mais nous devons accepter lorsque la maladie s'impose. Et c'est cela, lâcher la branche, se dire que Dieu en sait plus que nous. Et qui dit maladie, dit contretemps, on l'a dit tout à l'heure, mauvais coup, revers, tout le reste. Non seulement il est légitime de résister, et il faut le faire, et se donner tous les moyens pour surmonter ce qui nous arrive, mais tout en acceptant par avance la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Oui, tirer, presser cette expression pour en tirer beaucoup de jus, beaucoup de substance, de lâcher la branche, ça veut dire sortir de soi-même. Quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il lâche la branche de lui-même, qu'il sorte de lui-même, de son confort, qu'il accepte les complications de la vie. Tout ce qui contrarie mes projets, oh là là, ces personnes à visiter, ces malades à visiter, ces personnes qui attendent mon geste, ma miséricorde, mon amour. C'est ça, lâcher la branche de mon égoïsme, de mon orgueil, de mes préjugés, de mes idées. Nous qui aimons tellement tout prévoir et que tout colle, nous tenons à nos prévisions. Il n'y a rien à redire, c'est bon, un père de famille doit veiller, et une mère aussi, etc. Et chacun à sa place. Mais Et ça relève de, et révèle notre sens des responsabilités, n'est-ce pas? Mais il peut y avoir des facteurs imprévus, parce qu'il y en a, qui sont inconnus. Et ces inconnus-là, il faut réagir. Et Dieu les a prévus. Dieu les connaît, lui. C'est alors à nous de faire preuve de souplesse, d'adaptabilité, sans colère, sans désespoir, et lâcher la branche, en vivant l'abandon entre les mains de Dieu. Pour les 4 minutes qui me restent, je voulais faire une allusion plus spécifique à la maladie et à la compassion, parce que ça fait partie de notre lot permanent. Nous avons utilisé un mot important, dysfonctionnement. Il y en a personnel, familiaux, sociaux, à tout. Bien. Et sur tous les plans. Ce mot dysfonctionnement n'est pas excessif. Et si on l'applique à la santé, parce que nous voulons faire un aparté sur la santé, eh bien nous sommes par défaut, nous sommes prévus pour la santé, par défaut. Et dans la gloire, rêvons. Tout ne sera que béatitude, plénitude, sans le moindre bémol. Oui, il faut rêver du ciel. Requiescat in pace, qu'elle repose en paix. Plus de dysfonctionnement. Mais Seigneur, si tu permets le mal, si tu permets la souffrance, la maladie, la mort, c'est parce que tu en tires toujours un bien plus grand. C'est ma foi. Et je l'affirme comme étant ton disciple. La maladie et la souffrance affectent à la fois l'intéressé et l'entourage de l'intéressé. Autrement dit, dans les faits, une approche chrétienne donne une double dimension à la maladie et à la souffrance. Une dimension d'abord personnelle, 1 minute, et puis une dimension collective, 1 minute, et le temps sera accompli de notre méditation. Seigneur, face à une maladie longue que je connais, chronique, ou face à une maladie temporaire, une fracture, etc., une situation familiale ou professionnelle délicate qui est une source d'inquiétude, des problèmes financiers qui nous forcent à renoncer à certains projets légitimes, qu'est-ce que ça veut dire que d'accepter la volonté de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire que de renoncer, n'est-ce pas, à se battre? Aimer la volonté de Dieu, eh bien c'est d'accepter que ces situations contrariantes, Dieu les permet pour notre bien, j'insiste. Et c'est pourquoi la vraie solution vient toujours de l'acceptation de la situation. Avec la grâce de Dieu, j'accepte d'être malade et de devoir modifier mon rythme de vie. J'accepte de lâcher la branche de mes idées, de mes certitudes. Et je me lance dans tes bras, Seigneur, sans crainte. La dimension personnelle, mon attitude face à mes maladies, mes infirmités, etc. Et on a dit la dimension collective. Et si l'intéressé qui est malade doit gérer, réagir comme il faut et s'adapter à la maladie, au problème, eh bien aussi, tous ceux qui l'entourent doivent lui emboîter le pas, ils doivent s'adapter, accepter eux aussi les conséquences de cette situation nouvelle, c'est-à-dire les complications qui en résultent, les modifications à apporter au projet. Ils doivent chercher surtout à savoir ce que Dieu attend d'eux. N'oublions jamais que l'individualisme est un des gros problèmes de notre époque, où nous avons tendance à chercher des solutions, à agir en mettant en premier nos propres intérêts. Et nous mettons loin les commandements que le Seigneur nous a donnés, surtout le deuxième, aimer son prochain comme soi-même, ou mieux encore, aimer son prochain comme le Christ l'aime. Et se réfugier dans une attitude égoïste ne le permet pas, Seigneur. Que je ne me détache pas, entre guillemets, de la souffrance des autres, de la douleur des autres, de la maladie, parfois des personnes très proches. Que je sois responsable de ma maladie, de mon attitude vis-à-vis de ma maladie, de mes contrariétés, mais très responsable de la maladie et des problèmes. Le pape François ne parle que de ça, de nous sentir toujours concernés par ceux qui nous entourent, par les souffrances des problèmes. Nous devons terminer. Les 30 minutes sont écoulées. N'oubliez jamais que tout se tient. Une personne qui est disciple du Christ s'y prend bien dans les différentes situations nombreuses que nous avons évoquées au long de cette méditation intense. Eh bien, sur le plan pratique, cherchons le soutien intellectuel et affectif de la Vierge Marie. Et n'oublions jamais que la Vierge Marie a été au pied de la croix. Donc, si Dieu nous envoie la croix, il envoie aussi toujours la Vierge Marie tout près de nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.